Couture dans le Mid
avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Hey boy.
Radio X.
Ouais, beaucoup de faux billets de 100$ en circulation. C'est même la police, les policiers qui rappellent, même les détaillants, Conseil canadien du commerce au détail, qui rappellent de faire très attention. Actuellement, il y a une vague de fraude.
Le temps des fêtes, hein, c'est souvent...
billets de 100$. Donc,
c'est un gars qui en profite.
C'est un gars qui arrive pour vous acheter quelque chose avec des billets de 100$ sur Marketplace.
Demande un virement. Tu sais, virement à Interact, là, ouais. Ça se fait bien. Là.
Ouais, mais maudit virement, tu sais pas, des fois, il y a des crosses là-dedans.
Ah ouais? Moi, je fais ça.
Du monde qui se font frauder aussi.
La dernière fois, j'ai acheté un truc Marketplace. J'ai fait le virement sur place, puis j'ai attendu que ce soit déposé.
Un virement?
J'ai fait un virement.
Fait un virement, voilà. Puis finalement, il n'y a pas de virement. Il se présente trois gars à porte chez vous avec du... comment? Du poivre de Cayenne.
Ben voyons.
Une claque sur le nez.
Ben voyons.
Puis on repart avec le...
C'est donc bien violent, tout ça.
Mais t'as vu la vague de voleurs aussi?
Oui, j'ai vu.
Ils t'amènent dans un coin, puis ils te poivrent de Cayenne d'en face, ou ils te payent avec des 100$, puis ils t'entubent.
Mm-hmm.
Voilà. Notre invité, il est là, je voulais y parler. Oui. Chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien, puis quand vous parlez des billets de 100$, c'est dangereux, et pas juste les consommateurs, puis les partis politiques aussi, on a appris ça des derniers jours.
Ah oui, hein? Des brownies, toi.
Ça a coûté un poste de chef.
Et voilà. Moi, ouais, c'est rendu 5 brownies, là. 5 à 10 brownies. Éric, quand même une grosse année 2025, puis là, la foire est pognée des libéraux, la foire est pognée à CAQ. On l'a vu, là, Dubé, qui était le bras droit de François Legault, a quitté, ils l'ont jeté en dessous de l'autobus.
Oui.
Et pour les conservateurs, j'ai vu le dernier sondage et ça monte. Donc, comment tu résumes ton année 2025?
Bien, on ne se réjouit jamais du malheur des autres, là, mais c'est sûr que pour nous autres, c'est le fait qu'il n'y a rien qui nous a éclaboussé. Puis même, tu peux parler aussi du PQ avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui a éclaboussé les artistes. Là, il a tiré dans sa gang.
C'était pas chic,
tu peux parler de Vincent Marissal chez Québec solidaire qui a foutu le bordel aussi. Là. Je pense qu'on a été relativement éclaboussés. Puis ce que j'aime d'abord et avant tout, c'est que je sens, au-delà des sondages, là, je sens que la fenêtre d'Overton bouge, c'est-à-dire que la fenêtre des idées acceptables au Québec penche tranquillement de plus en plus vers la droite et qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent « ça n'a pas de sens comment on endette les jeunes, ça n'a plus de sens comment est-ce qu'on paye d'impôts ». On parle de la taxe carbone, hein, ça a été une grosse victoire cette année. Là. Les gens savent qu'au Québec, si le gaz est plus cher...
Ah, mais c'est-tu à droite, ça? Moi, c'est ça, je me dis, tu sais, on parle de la droite au Québec, puis souvent, on parle du centre, là. Puis moi, tu sais, je regarde les idées du Parti conservateur du Québec. Tu sais, c'est pas droite, là.
Non,
c'est dans le centre, là. On joue au centre, là, tu sais, voyons.
Mais quand, quand les autres partis sont tellement à gauche,
mais
le centre devient la nouvelle droite, là. Et, mais tu sais, il y a des affaires qui ont avancé au Québec cette année. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience tellement. Puis le plus bel exemple de ça, c'est François Legault qui ne fait que regarder les sondages. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un virage conservateur ces dernières semaines.
Ouais, exact.
Parce qu'il sait que ça bouge vers là, puis il sait qu'il y a une élection qui s'en vient. S'il veut sauver les meubles, ben il faut qu'il aille minimalement à droite. Et donc, il a proposé son projet de loi là, sur la démocratie et la transparence syndicale. Il a commencé à dire qu'il voulait réduire la taille des fonctionnaires. Bernard Drinville commence à dire que finalement, empêcher de vendre des voitures à gaz, ça n'arrivera peut-être pas aussi vite qu'on pensait. Les cibles de gaz à effet de serre, c'est peut-être pas aussi réaliste qu'on l'avait prétendu au départ. Et ainsi de suite, là, on voit que Il y a un virage qui est en train de s'effectuer. Même le Parti québécois qui dit finalement, les taxes d'essence, c'est vrai qu'au Québec, on paye trop cher, il va falloir qu'on trouve une façon de baisser les taxes. Donc, quand les autres partis commencent à te piger dans ton buffet, parce que t'as le meilleur lunch en ville.
Oui, puis du côté fédéral aussi, là, je regarde, Mark Carney a pas mal volé
beaucoup.
Le lunch des conservateurs, là.
Ben, c'est ça qu'il a fait réélire. S'il avait gardé le lunch à Justin Trudeau, je t'avertis qu'il serait déjà dans l'opposition. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, tu sais, avant d'être un partisan d'un parti politique en particulier, moi, je pense qu'il faut regarder l'ensemble du portrait, là. Puis, la bonne nouvelle, c'est que tranquillement, nos gouvernements, puis nos politiciens prennent conscience du problème de l'État-providence, du modèle qu'on essaie de nous imposer depuis trop longtemps. Et que là, on voit qu'on est rendu au bout de ce modèle-là, ça fonctionne plus. Là. En santé, c'est la même chose. Là. Christian Dubé qui s'en aille, là. Oui, il y a une chicane avec François Legault, mais qu'est-ce que ça cache? Ça cache qu'ils ont passé des lois qui n'ont ni queue ni tête parce que le système ne marche plus, puis ils essaient de trouver des solutions avec un modèle qui ne marche pas à base. C'est l'échec du monopole public en santé auquel on assiste. Christian Dubé, ça a été une manifestation de ça.
Bien, regarde, tu vois, là, les manchettes, là. Réseau de la santé, un lit sur six occupé par un patient qui ne devrait pas être à l'hôpital. Ça s'invente pas, là.
Ben oui.
Donc, il y a ça. Tu vois, les no-shows aussi, là. 321 absences en 5 semaines en pneumologie à l'hôpital de Saint-Jérôme. Donc, c'est du monde qui se présente pas à leur rendez-vous. On leur donne même pas un ticket de modérateur. On n'a rien, là. Fait que, tu sais, c'est le réseau complet qui est à réviser au complet, là.
C'est le modèle qui marche plus. Ça prend de la concurrence. Comme n'importe quelle entreprise, quand tu as un concurrent qui se brasse puis qui fait bien puis que les clients commencent à le regarder, ben, tu es obligé, toi aussi, de t'ajuster puis de t'améliorer. C'est ça qui manque au système de santé au Québec. C'est pas plus compliqué que ça, là.
Qu'est-ce que le Parti conservateur ferait pour amener de la concurrence? On parle souvent avec le docteur Karim El-Ayoubi, puis oui. Il nous le dit, là. Écoute, il dit il y a tellement à faire. Puis c'est pas des grosses réformes, là. C'est de peut-être ramener l'objectif de le client d'abord, c'est tout ça?
Oui. Bien, c'est que le patient soit vu, c'est ça. C'est que le système soit orienté sur la qualité des soins aux patients plutôt que le système comme tel. Parce que là, présentement, là, toutes les négociations, c'est sur juste les conditions de travail, puis les processus, puis la centralisation ou non, puis tu sais, il n'y a rien là-dedans qui dit comment on peut offrir de meilleurs soins au plus grand nombre de patients le plus rapidement possible. Alors que ça devrait être ça. Dans toute entreprise, c'est ça la base, là. C'est d'être sûr que la personne qui a besoin de tes services, elle ait le meilleur service possible. Malheureusement, le système de santé au Québec n'est pas fait comme ça. Puis d'ailleurs, je t'annonce qu'en 2026, en début d'année, on va commencer à présenter concrètement des projets de loi. Qu'est-ce que ça veut dire, le privé en santé? Donc, on va commencer à le décliner.
Oui, oui.
Parce que les gens, là, c'est bien abstrait. T'sais, ils n'arrêtent pas de dire « Ah, c'est le modèle américain. » Non, c'est pas le modèle américain. C'est les meilleurs modèles de santé au monde, comme en Europe, qu'on veut. On veut que, oui, tu peux garder ta carte d'assurance maladie. Tu pourrais même aller avec ta carte d'assurance maladie au privé si les délais sont trop longs au public ou si c'est moins cher de faire au privé qu'au public.
Oui.
Donc, c'est tout ça. Là. On va présenter des projets de loi pour que concrètement, les gens puissent vraiment comprendre dans le détail de quoi on parle.
Autre chose aussi, c'est la lourdeur du système de santé, Éric Duhem. Qu'est-ce que Santé Québec a amélioré depuis qu'on a mis ça en place?
Bien, Santé Québec, là, ils ont amélioré. Ils ont amélioré le salaire des Top Guns qui ont embauché, puis c'est à peu près tout. Là. Ouais. Je veux dire, on n'a pas besoin de plus de structures. Le problème du système de santé, c'est qu'il y a trop d'étages, trop de bureaucratie. Ce qu'on a de besoin, c'est du monde sur le plancher des vaches.
Ouais.
Et malheureusement, le Santé Québec fait exactement le contraire. Nous autres, ce qu'on dit au Parti conservateur, c'est qu'il faut abolir Santé Québec. Il faut revenir à la base. Il faut que le gouvernement, ça soit un assureur en termes de santé et qu'il laisse le marché décider quelle est la meilleure façon d'allouer les ressources, la meilleure façon de répartir l'offre de soins. Et donc, Santé Québec, là, je m'excuse, mais écoutez, ça a coûté combien de millions à date, là? Puis là, ils sont rendus qu'ils font des études sur des études. Écoute.
Ah, ils payent des consultants, là, parce qu'ils sont pas capables. C'était des Top Guns, là. C'était des gros Top Guns. Puis là, ils sont obligés de commander des études à des firmes comptables puis des firmes spécialisées pour aller chercher leur mandat.
Et non, écoute, c'est triste, là. Donc, je pense que ça, il y a beaucoup de ménage à faire là-dedans. Et puis c'est ça qui est paradoxal. C'est la CAQ, vous l'avez vu, là, Mme Duranceau, la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, là, qui dit qu'il faut réduire la taille de l'État, qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Elle disait essentiellement ce que la CAQ nous disait en 2018 quand elle a été élue, qui nous disait qu'elle allait baisser la fonction publique de 5 000 postes, puis qu'on se ramasse 7 ans plus tard, puis qu'ils en ont embauché 12 000 de plus, dont Santé Québec. Fait qu'ils ont fait exactement le contraire. Moi, je dis toujours, ils clignotent à droite, puis ils virent à gauche, là, mais ils parlent bien, mais ils gouvernent mal. Et c'est ça le problème de la CAQ à l'heure actuelle.
Ouais. Comment tu aurais réglé ça, toi, avec les médecins? Si tu avais été au pouvoir, t'es le premier ministre, puis t'as ton ministre de la Santé. Qui est peut-être médecin aussi, là, qui a été médecin dans la vie, t'aurais pas...
D'abord, je veux
t'entendre là-dessus, ouais.
C'est pas le rôle de l'État de déterminer, de micromanager les emplois, les médecins sur ce qu'ils font, puis comment ils font, puis s'ils ont le droit ou non d'aller dans le privé puis dans le public. C'est pas le rôle. Le rôle du gouvernement, là, c'est de s'assurer que le monde ait des soins, puis que tel type d'intervention ou de chirurgie, ça vaut tant, puis on paye tant pour ça. Point final. T'as pas à commencer à leur dire quoi faire, puis comment répartir leurs ressources, puis qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est pas bon, puis qui est gentil, puis qui est méchant, là. C'est pas le rôle du gouvernement. Puis le réseau de la santé, c'est gigantesque. Là. C'est plus que 1 milliard par semaine qui se dépense là-dedans. C'est pas parce que M. Dubé est pas bon en passant, là. Ça aurait été n'importe qui aurait été un fiasco, là. Puis c'est la
structure, hein, c'est le modèle.
On change de ministre, puis c'est toujours les mêmes résultats. Là. Ouais. La qualité des soins se détériore, l'attente allonge. C'est pas un ministre, il n'y a pas de génie altruiste qui peut être ministre de la Santé. Là. Moi, je ne remets pas en cause les qualités personnelles de gestionnaire de M. Dubé. C'est le système qui est ingérable. Puis pour moi, c'est la preuve par mille qu'on n'y arrivera pas. Puis là, c'est pas madame, la nouvelle madame qui allait être nommée. Ça, elle est bien sympathique, là. Mais je veux dire, elle brassera pas la soupe plus qu'il faut, elle-là. Là. Donc, c'est pas de cette façon-là qu'il faut voir le système. La logique du projet de loi 2, là, de la loi qui a entouré les médecins, qui a fait beaucoup jaser cet automne, c'est une logique bureaucratique, c'est une logique de monopole public qui marche pas. Il faut sortir de ce modèle-là. Fait que c'est, pour nous autres, le projet de loi, c'est un témoignage de l'échec. C'est pas une solution à aucun niveau.
Oui, mais les syndicats vont dire le contraire.
Oui, mais les syndicats, je veux dire, les syndicats font partie aussi du problème à plusieurs égards. Là. Je veux dire, quand tu es une force d'immobilisme et du statu quo, d'un modèle qui marche pas, tu deviens un problème. Puis malheureusement, les centrales syndicales, ils sont pas très fortes pour innover puis proposer des solutions que ça marche mieux. Puis c'est correct, là, c'est leur rôle. Ils veulent défendre des meilleures conditions, des meilleurs salaires pour leurs membres, puis qu'ils payent plus de cotisations
syndicales. Ah, et
eux
autres, ils font le job. Non, mais les syndicats, ils font le job, là. Je veux dire, c'est à nous autres à faire la nôtre, l'autre bord, quand t'es au gouvernement, de dire non.
C'est les syndicats qui gouvernent, là.
Capacité de payer aussi, peut-être, là.
C'est ça. Nous autres, là, ce qui, moi, en tant que politicien, là, mon intérêt, c'est l'intérêt de la population. Le syndicat, là, lui, son intérêt, c'est l'intérêt de ses membres, point final.
Exact.
L'intérêt de ses cotisations syndicales, à titre d'attente.
Ouais. Taxe carbone, tu fais quoi avec ça si t'arrives au pouvoir?
Bien, d'abord, il faut enlever ça. Là. Il faut abolir cette taxe-là qui représente... Parce que la taxe carbone, les gens ne savent pas ça, là, mais c'est une taxe ascenseur. Mais c'est un ascenseur qui fait juste monter. C'est-à-dire qu'à tous les ans, le plancher est obligé d'être plus haut, OK? Je ne sais pas si tu as suivi un peu le mécanisme, là, mais c'est une taxe qui, à tous les ans, va toujours aller en montant. Parce qu'évidemment, ça a été fait par des activistes environnementalistes qui pensent qu'il faut éliminer le gaz puis le pétrole, c'est qu'ils se disent que ça va devenir tellement cher qu'il n'y a plus personne qui va avoir les moyens de s'en payer.
Ah oui, mais l'alternative n'est pas là.
Mais non, c'est ça, mais c'est pas grave. Eux autres sont dans l'idéologie, là. Fait qu'à tous les ans, il faut monter. La taxe va monter tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut l'abolir au plus sacré. Parce que plus on va attendre, plus l'écart avec nos voisins, parce que vous savez que le reste du Canada n'en paye plus l'écart avec eux va être élevé. Donc, il faut l'abolir. Il faut abolir le fonds vert. Parce que la taxe carbone finance le fonds vert. Le fonds vert, c'est une espèce de fonds qui donne de l'argent à des entreprises qui ont supposément des projets verts.
Ouais, donc, des entreprises qui ont de l'argent aussi, là, qui peuvent payer projets, mais on donne des cadeaux à du monde qui ont donné de l'argent au parti.
Air Canada qui reçoit des millions, c'est complètement ridicule, là, alors que le gars qui gagne 20$ de l'heure, lui, il est obligé de payer une couple de piastres de plus à chaque fois qu'il fait le plein. C'est ridicule. Donc, on abolit tout ça. Et on revient à un système où on est compétitif au niveau du prix de l'essence. Parce que, tu sais, parler à n'importe quelle entreprise, là, ça a un gros, gros impact au Québec, même sur l'inflation, même sur le prix de votre panier d'épicerie. Le fait qu'on paye beaucoup plus cher notre essence. Là. Les tracteurs, ça ne roule pas à l'électricité. Là. Les camions qui transportent les biens au supermarché puis partout dans les entreprises, ça ne roule pas à l'électricité. C'est toute la consommation d'essence. Et ça se reflète dans les prix. D'ailleurs, Statistique Canada, il y a quelques semaines, nous disait même que si l'inflation au Québec reste plus élevée qu'ailleurs au Canada, c'est en grande partie à cause du coût de l'essence plus élevé au Québec. Donc, si on veut combattre l'inflation, c'est pas en légiférant, en empêchant les supermarchés de faire des entreprises, des profits, ou en attaquant les compagnies pétrolières, là, en disant qu'on va mettre un prix maximum, là. Ça, c'est des fiascos partout annoncés. Là. Il faut qu'on baisse les taxes et qu'on laisse l'argent dans le portefeuille du monde.
Ouais, quand tu parles de laisser de l'argent dans le portefeuille des gens, bon, taxe carbone, c'est une idée.
Oui.
Après ça, qu'est-ce que tu fais pour baisser les taxes, mais surtout laisser de l'argent dans le portefeuille des familles et des gens qui nous écoutent?
On va proposer, évidemment, dans notre cadre financier, là, les modalités et les chiffres plus exacts. Adrien Pouliot va nous présenter ça dans quelques mois. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que le Parti conservateur, de loin, était celui dans la dernière campagne électorale qui proposait de baisser le plus les taxes et les impôts des contribuables. Pour nous, c'est fondamental. Là, si on veut réduire, par exemple, éliminer les subventions aux entreprises, abolir le fonds vert, abolir, on vient de parler de Santé Québec, réduire de la fonction publique d'au moins 20 000 postes, tout cet argent-là économisé, bien, on le laisse dans les poches du monde. Là. L'objectif, c'est que vous payez moins de taxes et d'impôts. Vous le savez, au Québec, on est les plus taxés, les plus imposés du continent. Ça non plus, ça n'a pas de sens.
Donc, on a l'air d'aimer ça. Je ne comprends pas d'où ça vient, cette espèce de côté, d'aimer qu'on se fasse taxer puis plumer comme ça.
Parce que les gens ont cru à un mirage. Au Québec, on s'est fait dire que plus on payait de taxes, plus on payait d'impôts, meilleur allait être nos services publics. Puis aujourd'hui, là, je vous mets au défi. Regardez les listes d'attente dans les hôpitaux ailleurs au Québec par rapport à ici. Regardez la qualité des routes au Québec par rapport aux autres provinces. Regardez les temps d'attente quand vous avez besoin d'aller devant la justice là, pour les procès au Québec par rapport à ailleurs. Regardez les examens internationaux au niveau de l'éducation au Québec par rapport à ailleurs. Puis venez me dire qu'on a des meilleurs services publics parce qu'on paye plus d'impôts et de taxes. Vous allez voir que c'est le contraire. À plusieurs égards, le Québec est en queue de peloton en matière de qualité des services publics. Donc, il faut arrêter de croire à ce mirage-là. C'est un mensonge qui a été répété depuis très, très longtemps. Mmh. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui y croient parce qu'on l'a tellement entendu. Vous l'avez tout entendu depuis qu'on est au monde qu'on se fait dire
ça. Ah oui, on est meilleur au monde.
Bon, on est meilleur dans tout.
Ouais, on est meilleur dans tout, mais ça nous coûte très, très cher. Les gens ont plus d'argent. Puis y a une idée qui circulait. Je ne sais pas si c'est possible dans un cadre financier conservateur, mais d'abolir complètement les taxes dans les épiceries, par exemple.
Bien, sur tout ce qui est les aliments, parce que présentement, là, c'est bien compliqué. Là, puis moi, je suis d'accord avec ça. Là. C'est très compliqué présentement, la taxation au niveau des aliments, parce que si c'est transformé ou fonction de la transformation ou du nombre d'éléments que tu achètes. Quand tu achètes à l'unité certains articles, tu es taxé. Si tu les achètes en plus qu'en paquet de 6, puis je ne l'ai plus.
Il y a des critères comme ça.
Tu sais, tu vas me dire pourquoi que quelqu'un qui n'achète 6 devrait payer moins de taxes que celui qui n'achète 2. J'ai jamais compris la logique. Là. Mais il y a toutes sortes de critères historiques qui font qu'effectivement, il y aurait moyen de réduire les coûts de la nourriture. Un autre exemple, là, taxer la nourriture des chats, des chiens. Moi, vous savez comment j'aime les animaux domestiques. Là, je me suis demandé c'est quoi l'utilité de taxer.
Ils ont besoin d'argent, tu sais bien. La machine a faim.
Puis, tu sais, les gens qui ont des chats, des chiens, c'est pas nécessairement les millionnaires. Là. Souvent, ces taxes-là, c'est des taxes régressives. C'est-à-dire que c'est des taxes où, en pourcentage de ton revenu, c'est beaucoup plus important pour une personne à faible revenu qu'une personne à haut revenu. Ton chien mange pas plus parce que t'es riche, là. OK? Ah. Puis, ou ton chat. Fait que tu taxes plus les pauvres. Et il y a quelque chose là-dedans que les gauchistes là, qui parlent tout le temps, qui veulent aider les pauvres, ils devraient nous applaudir quand on dit ça. Là. Même chose avec les biens usagés. Le gars qui s'achète là, une minoune ou qui s'achète un frigidaire usagé, c'est pas un millionnaire. Là.
Non.
Puis on le taxe, mais il paye de la taxe sur un produit qui a déjà été taxé.
Ben oui, souvent c'est taxé 5 fois la voiture, 5-6 fois dans une durée de vie d'une voiture.
C'est ridicule.
Ouais.
Pourquoi que le gouvernement a besoin? À un moment donné, même j'ai fait les calculs, il y a des autos là, que au total tout, à la fin de leur vie, ils vont avoir rapporté plus au gouvernement que le prix qu'ils ont coûté au gars qui l'a acheté au départ.
Oui. Non. Je suis d'accord avec toi. Écoute, Éric, on voit qu'il y a du pain sur la planche pour 2026.
Oui.
Et là, toi, la mécanique s'enclenche. Là, on s'en va en élection. Là, tu es en recrutement de candidats. J'imagine qu'il y a des gros noms qui s'en viennent.
Bien, écoute, le recrutement de candidats, il y a deux choses, en fait. Il y a deux gros chantiers sur lesquels on travaille présentement. Un, c'est le programme, évidemment, la plateforme électorale qu'on va présenter. Pour ça, il va y avoir un congrès des membres les 31 janvier, 1er février au Lac-de-l'Âge. C'est notre dernier gros congrès avant l'élection. Donc, c'est là que les grands axes vont se décider. Donc, ça, c'est un élément très important. L'autre élément, tu viens de le mentionner, c'est la sélection des candidats. On est là-dedans. On va en annoncer plusieurs, d'ailleurs, dès notre congrès. Là, on va être probablement le premier parti à vraiment annoncer beaucoup de candidatures en vue de l'élection. On va le faire au Lac-de-l'Âge les 31 janvier. Même au retour des fêtes, je vais commencer dans certaines circonscriptions à déjà annoncer des candidats. Là. On veut donner le temps aux candidats de plus se faire connaître.
Pendant qu'il y a des partis qui on ne sait pas si le chef va rester ou pas, ben vous allez foncer avec des annonces de candidats. Éric Duhem, tu es salué. Et joyeuses fêtes, bonne année 2026. On a au plaisir de se reparler. Salut.
Ben, merci beaucoup. Puis comme j'ai écrit sur ma page Facebook, moi, je dis joyeux Noël. Je sais que c'est pas politiquement correct, mais il faut le dire. Fait que je souhaite un joyeux Noël à vous et à vos auditeurs aussi. Puis on se retrouve en début d'année 2026.
Salut.
Merci beaucoup.
Bye-bye. Voilà. Éric Duhem, chef du Parti conservateur. Ils vont nommer du monde.
Oh oui.
Ça va aller vite, là.
Je pense que oui.
Ils ont le candidat.
Je pense que c'est déjà officialisé, mais c'est ça.
Mais ça va prendre des gros noms. Ça va prendre des gros noms pour le Parti conservateur, si on veut.
J'ai l'impression qu'on va être agréablement surpris, moi.
Ouais, moi, je pense que ça prend des gros noms. Il ne faut pas faire l'erreur. Poilievre a fait ça, l'erreur de ne pas avoir autour de lui une équipe.
Ça prend une équipe.
Prend une équipe, voilà. Après la pause, on jase d'économie.
Couture dans le mid. Radio. X.